France Culture. Les nuits de France Culture.
Comment lire le mythe de Casanova aujourd'hui? C'est la question que posait l'émission qui va suivre. Aujourd'hui, c'était en l'occurrence en 1998, deux siècles après la mort de Giacomo Casanova, quand dans Staccato, Antoine Spire invitait pour répondre à cette question le neurobiologiste Jean-Didier Vincent et le psychiatre Jacques-Antoine Malarevitch. Une émission qui avait pour invité principal, pour invité vedette en quelque sorte, l'un des plus casanovistes parmi les casanovistes de son temps, Philippe Solers, qui publiait cette année-là « Casanova, l'admirable ». De la réunion de ses admirateurs inconditionnels du Vénitien, auxquels se mêlaient les voix de Chantal Thomas et de Maurice Levert, émergeait le visage d'un Casanova ni mythique ni mythologique, mais humain, vivant, plus qu'aucun autre ne l'avait été dans son siècle. Grandeur d'un homme, grandeur d'un écrivain, grandeur d'un siècle, celui des Lumières, que Solers ne manquait évidemment pas d'opposer au siècle suivant. Un portrait à plusieurs voix de Casanova, sur lequel le portraitiste Solers, pour mieux souligner les flamboyantes couleurs du personnage, veillait à poser les quelques touches nécessaires du noir qui révèle tout l'éclat d'une existence. Staccato, le mythe de Casanova, première diffusion le 15 octobre 1998 sur France Culture.
Staccato, Antoine Spire, bonsoir. Nous sommes donc à l'hôtel de Massa, la Société des gens de lettres. Giacomo Casanova, puisque c'est le mythe de Casanova que nous voulons aborder, c'est un de ces hommes dont le destin est devenu légende. Sans doute mythe parce qu'énigme, tour à tour soldat, courtisan, diplomate, financier, publiciste. Soupçonné d'être un agent secret, escroc, imposteur, ce libertin européen avant la lettre. Déjà, Solers gigote sur son fauteuil parce que je n'ai pas encore dit qu'il était écrivain. Donc, soupçonné d'être un agent secret et européen avant la lettre, il passe ses 10 dernières années comme bibliothécaire du comte de Waldstein à écrire un livre décisif qui s'appelle « L'histoire de ma vie » et dont le succès devait être extraordinaire. Le premier mérite de Philippe Solers, qui nous accompagnera tout au long de cette émission, c'est d'avoir emboîté le pas de ses mémoires et d'en proposer un florilège gourmand. Notre première invitée sera une jeune femme qui vient de publier son premier roman, Croque en jambes, Vanessa Zocchetti. Son héroïne est séduisante et envoûtante, comme Casanova, bien qu'elle soit une femme. Mais elle tient aussi de l'ogre et du vampire. Elle est pleine d'énergie, loin du mythe familial, comme Casanova, mais elle s'en différencie en flirtant avec un sadomasochisme qui rassemble ses adeptes en bande. Sur le grill posera le problème de la lecture du mythe de Casanova avec Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, auteur de Casanova, la contagion du plaisir aux éditions Odile Jacob, qui vient de publier chez Odile Jacob un livre dont nous reparlerons à Staccato qui s'appelle « La vie est une fable ». Il sera confronté à Jacques-Antoine Malarevitch, psychiatre et directeur de collection chez ESF. Philippe Solers, bien sûr, conclura notre émission en nous invitant à quitter le mythe pour la réalité d'un homme, écrivain donc, philosophe, cynique et tendre, attentif au plaisir féminin, libertin et amoureux de la liberté. Au fait, Casanova ou Solers ?
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo è che ho fatto io, osservate. Leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia. 500 ad Ancona, 100 in Francia e Turchia, 91 ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003.
Contrairement à Don Juan, c'est un jouisseur et doublé d'un cynique. Et pour finir, c'est quelqu'un qui aime bien les ennuis.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mythe de Casanova ?
Venise, avec ses palais, ses ruelles tortueuses, c'est les ombres que la ville crée par son architecture. Et puis on imagine cet homme déambulant dans ses énormes palais, ses salles immenses décorées. Puis ça évoque surtout l'histoire d'un homme qui faisait tourbillonner les femmes, infatigable, éternel.
Le cœur qui bat toute la vie pour un bruit de la robe soyeuse, pour le regard lumineux d'une femme. Et puis vice-versa, pour les femmes, ça présente un amant éternel.
L'homme dragueur, l'homme voyageur qui ne s'attache pas. L'homme sans limite, l'homme moderne.
Peut-être tout ça qui est face au néant, face à... c'est quelqu'un qui doit être très malheureux.
Soders me glissait, c'est où ça ? Alors je lui réponds, devant tout le monde, eh bien c'est tout simple, c'est un micro-trottoir de gens astucieux qui ont dit tout simplement qui était Casanova à leurs yeux aujourd'hui, ce qui montre qu'on sait peut-être mieux que Soders ne le croit qui est Casanova aujourd'hui. Mais nous allons commencer avec quelqu'un qui s'est inspiré un petit peu de Casanova, qui est un écrivain, qui est Vanessa Zocchetti, donc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez écrit Croque en jambes. Je vais tout de suite dire que votre héroïne, Casimira, est irrésistible, comme Casanova. Cependant, c'est une teigne, un peu estropiée, c'est une créature démoniaque ou divine, on ne sait pas. En tout cas, elle est un peu nympho, elle est un peu midinette, elle est un peu bas bleu. C'est quelqu'un qui finalement a des attitudes un peu hystériques, elle est un peu cheftaine de bande. Et en quoi elle ressemble à Casanova, à votre avis ?
Pour tout vous dire, je ne me suis pas du tout inspirée de Casanova, parce que pour moi, Casanova était ce mythe dont les gens ont parlé dans le micro-trottoir, c'est-à-dire le séducteur, l'homme qui aime les robes, qui froufroute. Et Casimira n'est pas du tout ça. Elle passe sa vie à poil, enfin en gros. Elle est assez sale. Et,
On va revenir sur la saleté. Mais écoutez, d'abord, elle est séductrice. Parce que
c'est une
sinon,
séductrice.
Sinon, on va croire que j'ai eu tort de la choisir.
Non,
j'ai choisi Casimira parce que moi, elle m'a fait penser un peu à voilà. Casanova. Et puis ça m'amusait d'avoir un Casanova féminin.
C'est vrai que c'est une séductrice. Mais quand j'ai lu le livre de Philippe Solers, je trouvais qu'elle ne lui ressemblait pas tant que ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, j'ai été inspirée, parce que Casimira, Casanova, il y a des petites sonorités comme ça. Mais à part la séduction et le plaisir, parce qu'elle aime faire l'amour, elle ne fait pas vraiment l'amour, je crois, elle baise plutôt, mais elle aime ça, elle aime la jouissance.
Et... Non, mais aujourd'hui, vous savez, on baise, on ne fait plus l'amour aujourd'hui.
C'est pas vrai.
Ah bon ?
On peut faire les deux.
Oui, on peut faire les deux. Et donc, elle aime le plaisir, elle aime en donner. Et je crois qu'en ça, elle ressemble à Casanova.
Nicolas Martin.
Oui, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'elle baise, comme vous dites, mais d'une façon quand même particulière, puisqu'elle écourte ses amants. Autrement dit, Casimira est un cul-de-jatte.
Non, pas comme vous croyez.
Cul-de-jatte.
Ce qui se disait, ça y est, les chattes. Mais non, pas du tout.
Elle fonde une société cul-de-jattesque.
Oui. Si elle les avait châtrées, je pense qu'elle aurait été très malheureuse. Donc elle ne fait que leur couper les jambes pour créer...
Rien que ça.
Ce n'est qu'un début.
Voilà, pour créer un monde à son image, c'est son objectif. Elle veut que les gens lui ressemblent. Et en fait, c'est un livre un peu sur la norme. Donc voilà pourquoi elle leur coupe les jambes.
Alors... Pardon. Non, ce qui la différencie aussi de Casanova, c'est qu'elle tient un peu du vampire. À savoir, ses amants, par exemple, après avoir été écourtés, ils rajeunissent. Elle n'a de cesse de dire dans le livre qu'elle aime la nuit, la ténèbre, etc. Il y a un motif un peu qui rappelle les vampires dans votre personnage.
C'est vrai qu'il y a quelque chose du vampire, mais il y a aussi quelque chose de l'animal. En fait, chaque fois qu'elle sort d'un long sommeil, chaque fois qu'elle a amputé un certain nombre de gens, elle passe à une autre phase de sa vie, de plus en plus inhumaine, de plus en plus féroce, de plus en plus animale. Donc il y avait chaque fois qu'elle, en fait, ces ténèbres, etc., c'était un passage, une perte un peu plus de l'humanité. C'était ça mon objectif.
Alors Vanessa Zocchetti, vous avez prononcé le mot de crasse tout à l'heure. On va essayer d'y revenir, parce que son goût pour la crasse, son goût pour les shows érotiques, son goût pour la puanteur de la mort, nous éloigne bien sûr de Casanova et de toute esthétisation du sexe. Je pense que derrière cette idée d'une sexualité un peu débordante, qui ne pourrait se déployer que dans la saleté, il y a quelque chose comme un jugement moral chez vous. Alors là, on est très loin de, on est très loin de Casanova. Un peu comme si un corps jouissant, à vos yeux, ne pouvait être qu'un corps poisseux, un peu sale.
Non. Je ne suis pas une dévote, comme dirait Solaire, sans son livre.
Non. Je n'ai pas dit que vous étiez une dévote. Alors, disons tout de suite ce que dit Solaire. Les femmes dévotes, finalement, jouissent infiniment mieux que les autres. Et ce qui est formidable, c'est le moment de la jouissance chez la femme dévote.
Vous n'êtes
pas une dévote, donc le moment de la jouissance n'est pas formidable avec vous.
Ça dépend des messieurs. Moi, j'ai pas du tout voulu donner un aspect moral au sexe. Casimira aime le sexe. Mais c'était plus extérioriser sa crasse intérieure. C'est quand même un monstre, cette femme-là. Et je pense que je sais pas. Il y a un problème de perception ou quelque chose comme ça. Mais moi, quand je décris la crasse, c'est plus une description du personnage, c'est-à-dire un personnage monstrueux qui veut que le monde soit à son image, qui est fasciste. Et donc cette crasse permanente dans laquelle elle baigne, c'est un peu l'image du monde qu'elle veut créer, et pas du tout l'image de la sexualité.
Nicolas Martin.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette violence, cette monstruosité, elle trouve son origine dans sa haine pour les bipèdes et les humiliations qu'elle a subies, Antoine y faisait allusion tout à l'heure, notamment dans ses shows érotiques.
Tout à fait, oui. Elle déteste les gens qui l'ont fait souffrir. Et donc, comme elle les déteste, elle a décidé de se venger. Et pour se venger, elle n'a rien trouvé de mieux que de prendre le pouvoir et de les soumettre.
Voilà. Alors, elle soumet les hommes.
Et les femmes.
Elle a un pouvoir, en fait, elle a un pouvoir sur les êtres qui sont autour d'elle, qui est d'abord un pouvoir de séduction.
C'est une séductrice, c'est pour ça que c'est un Casanova femme. C'est vrai que c'est une séductrice. Elle est extrêmement belle. On ne sait pas comment elle est vraiment dans le livre. Elle n'est pas décrite. Je voulais laisser au lecteur, justement, la magie d'inventer quelqu'un qui est magique, enfin qui est très très séducteur.
Alors elle séduit des vieux,
elle séduit des vieux comme Théophile Burnier,
elle séduit ici Titon qui regarde Casimira comme un cul-de-jatte cloué sur son chariot. Elle séduit toute une série de personnages et on a l'impression que l'acte de domination qui passe par la séduction l'enchante et que ce qui est essentiel pour elle, c'est cet acte de séduction domination.
Tout à fait. Je pense que sa domination passe par la sexualité. En fait, elle séduit pas mal d'hommes qui, au fond, je ne sais pas s'ils ont eu véritablement du plaisir jusqu'à leur rencontre. Et c'est évident que la sexualité lui permet de manipuler les gens. C'est ce que je voulais introduire. Le plaisir lui permet de manipuler les gens.
Alors, il faut dire que ces relations sont...
Mais aussi bien les femmes que les hommes, hein.
Ces relations sont quand même sadomasochistes parce que elle, notamment Casimira, elle a un plaisir particulier à les faire souffrir. Et d'ailleurs, elle mord leur tendon d'Achille, et leur tendon d'Achille, en l'occurrence, c'est leur moignon, puisqu'ils n'ont pas de jambes. Ce qui est quand même tout un programme.
Oui, je pense qu'elle mêle plaisir, souffrance, mais c'est des choses qui ne sont pas tout à fait étrangères non plus. Le côté sadomaso, ça fait aussi parfois partie de la sexualité. C'est pas ignoble.
Personne dit que c'est ignoble. Le problème qui se pose, c'est de savoir si dans l'artifice de la séduction, parce qu'il y a un artifice de la séduction chez elle, le sadomasochiste est un moyen, ou bien si le sadomasochiste est presque une fin. Je veux dire que on se pose la question de savoir où elle va exactement. Quelle est la finalité réelle de sa sexualité?
C'est le plaisir. Et le plaisir et la domination. Donc, ça s'arrête là. Je veux dire, elle a
libido,
envie de donner...
Libido dominandi.
Voilà. Je le dis très bien.
Il est très savant, il parle en latin, ça veut dire le désir de dominer. Voilà. Bon, alors, peut-être, ce qui est important, Vanessa Zocchetti, c'est que nous voulons essayer de voir le rapport avec Casanova. Et Casanova, aujourd'hui, a inspiré de très nombreuses plumes féminines qui ont été fascinées par cet amant éternel qu'il est, à l'opposé du cliché erroné d'un tombeur macho. Et parmi les femmes qui ont été séduites par Casanova, il y a Chantal Thomas, dont le Casanova, un voyage libertin, est réédité ces jours-ci chez Folio. Alors, qu'est-ce qu'une femme, aujourd'hui, aime tant chez Casanova? Et est-ce qu'il y a des moments particuliers où elle pense à lui? C'est ce que Chantal Thomas a confié à Olivier Doubre.
Je pense souvent Casanova en entrant dans une chambre d'hôtel ou en passant devant quelqu'un qui m'excite ou en arrivant dans une ville nouvelle. Casanova, pour moi, il est essentiellement dans l'art des départs. Il a un goût presque de complicité avec les autres femmes qui, comme lui, parcourent le monde. Et ce que j'aime dans Casanova, c'est les personnages féminins avec qui on a tout de suite envie de lier une sorte de connivence secrète. Et ces femmes sont aussi libres que lui. Elles ne sont pas du tout broyées par ces histoires d'amour, au contraire de ce qui se passe en face de Don Juan. Elles en renaissent ou prêtes à continuer des histoires du même genre, sans lendemain, ou bien il les marie et donc il inscrit lui-même, il les aide lui-même à l'oublier, mais à l'oublier de manière intermittente, sans haine. Il n'y a aucun ressentiment dans Casanova, c'est une sorte d'euphorie du commencement. Il ne se pose pas la question du respect, d'ailleurs lui-même ne se respecte pas vraiment. Ce à quoi on s'offre quand on lit Casanova, c'est à un mouvement, en tout cas pour moi c'est comme ça, un mouvement de dépossession au hasard des rencontres. Et là-dessus, je trouve, il est vraiment génial. Et en la femme, il suscite ça, cette manière de s'exposer à quelque chose qu'elle ignore elle-même. La dignité des femmes, il ne pose pas les choses en ces termes. Ce qui leur offre, c'est d'ouvrir... Pour elle, il ouvre le monde. Et je crois que le mythe de Casanova, avec tout ce qu'il peut avoir d'arrogant, de trop sûr de soi, si on lit le texte, on comprend très bien que c'est pas du tout ce personnage. Et que c'est au contraire un personnage qui, tout en suivant son chemin, qui était sans partage, parce qu'il est là-dessus vraiment sans flottement et sans ambiguïté, il part seul. Et il est vraiment l'être le plus anticonjugal et anticouple qui soit. En même temps, il est une personne absolument sûre, au sens qu'il y a une étrange fidélité de Casanova. Et c'est un peu peut-être cette voix, à la fois amicale et profondément originale, donc qui vous fait découvrir l'inouï. C'est peut-être à cette voix que les femmes... sans sensible.
Philippe Soler s'en reviendra tout à l'heure sur cette liberté que Casanova donne à ses protagonistes femmes qui sont en face de lui et sur ce formidable, je dirais presque détachement et volonté de voir, ce qui est très moderne, les femmes en face de lui accéder à une responsabilité. On y reviendra tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous interroger sur le fait que les jeunes romanciers comme Vanessa Zocchetti, je pense par exemple à Madame Nebécourt, je pense à Houellebecq, avec qui vous étiez l'autre jour chez Pivot, ont une vision des rapports sexuels qui est exactement inverse. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre sexe et violence, une liaison entre sexe et domination, une liaison entre sexe et justement mise à mal de cette liberté. Et je voudrais vous interroger sur le fait de savoir si est-ce que Casanova est seulement un homme du XVIIIe siècle, est-ce qu'il n'y a que Solers aujourd'hui pour incarner Casanova, et que signifie cette génération de romanciers qui est à l'inverse de la manière d'être de Casanova?
Je crois qu'ils sont en effet tout à fait de leur époque. Ça, c'est la première chose à dire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Vanessa Zocchetti dire... de son personnage féminin, tout le monde écoutait ça dans le plus grand calme et la plus grande sympathie, que cette pute amputatrice hein, pour jouer sur les mots, qui coupe les jambes des hommes, etc. Supposons, d'ailleurs c'est pour ça que c'est très intéressant, supposons un homme qui viendrait vous expliquer que son livre, ça consiste à amputer les femmes, à mordre leurs moignons, etc. Il y aurait une gêne dans le... Tandis que là, non, il y a des rires et plutôt de la sympathie. Et vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Donc, il y a là comme un esprit de très d'époque, de revanche et de historique de la part des femmes par rapport aux hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois que c'est important de voir que tout ce qu'on appelle la sexualité aujourd'hui a été économiquement et historiquement mis dans une sorte d'impasse. Pour des raisons de propagation de cette idéologie absurde, à savoir que tout le monde devait s'en occuper. Voilà. Et c'est le contraire du 19e siècle, si vous voulez. La sexualité au 19e siècle, c'était le diable, le soufre, l'atteinte aux bonnes mœurs, à la religion, à la famille, etc., etc., etc. Il y avait des valeurs, en quelque sorte. Et on traînait Baudelaire, Flaubert devant des tribunaux en prouvant que ce qu'ils écrivaient, qui pourtant ne nous choque pas, nous, aujourd'hui. Enfin, c'est pas sûr, d'ailleurs. Bon. Et puis, en un siècle, on passe à autre chose, c'est-à-dire à une démocratisation intensive, que la marchandise a su instrumentaliser, donc quelque chose de violent, de sexe associé à la violence, etc., qui n'a rien à voir avec le sadisme au sens de ça, non, c'est tout à fait autre chose, mais à cette instrumentalisation de la sexualité, pour des raisons économiques très, très, très évidentes. Et alors là, la protestation ne peut en somme venir que de gens qui trouvent que ça les met dans un état de misère, et il faut la surmonter et aller dans l'excès. C'est pour ça que ces personnages sont intéressants, que ce soit des pentes, Houellebecq, Nobécourt, vous sans doute, etc. Donc, ben voilà, nous sommes dans ce... Alors ça a le mérite de poser la question, de savoir où nous sommes. Alors est-ce que c'est, vous savez, est-ce que c'est 18e et puis tout à coup fin du 20e? Mais ça aussi, ça permet de se dire que l'histoire est en haut et en bas. C'est pas... avant le 18e, le 18e, ça dure pas tout le 18e. Et puis au 19e, il y a une période de répression. Puis au 20e, il y a des époques plus ou moins libres. Et puis voilà. Donc que nous soyons dans une époque pas libre ou pas jouissive dans l'aisance et le détachement, ça me paraît la moindre des choses à dire. Mais c'était pas comme ça, disons, dans les années qui allaient, alors au contraire, vers une explosion qui a eu lieu en 68, si vous voulez, par exemple.
Vanessa Zocchetti, est-ce que vous êtes fasciné par l'horreur de vos personnages et par leur situation relativement horrible? Et est-ce que la sexualité de Casimira et autres semble entraîner sous votre plume, je dirais presque, une jubilation à dire, parce qu'il y a une jubilation, c'est un livre très drôle, très enlevé, très alerte, il y a une jubilation chez vous à décrire cette sexualité un peu hors norme?
Je peux pas dire que j'ai une fascination pour l'horreur. Ça n'était qu'un moyen de faire passer des choses, justement. Et j'avais envie d'utiliser l'horreur, justement, pour amuser. Et je pense que là, c'est exactement ce que vous venez de dire.
C'est cathartique, c'est-à-dire comme voilà. On dit, c'est-à-dire se libérer.
C'est une forme d'expression que j'ai choisie. Et si j'écris un autre livre, je choisirais peut-être pas ça. Mais j'avais envie d'introduire un côté un peu, c'est un mot qui veut un peu rien dire, décalé dans l'horreur. C'est-à-dire qu'on puisse rire de l'horreur. Mais il y a des gens qui détestent le livre parce que justement, ils ne ressentent absolument pas ce côté deuxième degré. Et ils prennent l'horreur telle qu'elle est.
Nicolas Martin.
Alors Vanessa Zocchetti, il y a une chose qui est importante dans le livre, c'est que le roman est entrecoupé de réflexions, ce sont de longues digressions qui constituent le carnet de route de Casimira Georgius. Et ces digressions, on a le sentiment qu'elles disent là encore quelque chose peut-être d'un sentiment de culpabilité, comme s'il était nécessaire pour votre personnage de donner un cadre théorique à ces exactions. Ou pour le dire autrement, on a l'impression que c'est à la fois une manière de prendre ses distances par rapport à ce délire, et en même temps une manière de se rassénérer et de réalimenter le feu de ce délire.
Alors, ces carnets de route, en fait, j'ai voulu livrer sa mécanique intellectuelle. Alors, c'est vrai que c'est un moment où elle se pose, justement, elle écrit. Donc elle arrête de torturer, elle cesse de faire l'amour. Enfin bon, donc elle écrit. Et elle écrit des choses très techniques, complètement mécaniques, très systématiques, et qui sont en fait pas très intelligentes. Non, mais c'est vrai, et c'était une volonté. Je n'avais pas envie de montrer que mon personnage était un personnage intelligent. Je voulais montrer que c'était un personnage rusé, mais extrêmement systématique, mécanique, avec des engrenages. Quand elle parle d'intégration, désintégration, c'est d'une absurdité totale. C'est pas intelligent, c'est rusé.
Mais en même temps, elle prend la plume, très souvent, après ce qu'on pourrait appeler, même si ça paraît incroyable après ce qu'on a dit, une sorte d'accès de sentimentalité. Par exemple, après la naissance de Saturnin, ou après avoir fait l'amour finalement avec ce bipède, qu'elle va massacrer, enterrer, et une fois qu'elle le met en terre, elle va pleurer.
C'est une pause pour elle. C'est vrai, peut-être qu'elle se rassure.
Mais voilà, ça fait rire. Tandis que si c'était un homme qui disait bon, alors je l'ai découpé en morceaux, il y aurait un malaise. Donc je veux insister sur le fait que si ce sont des hommes qu'on tue, ça fait rire. Il y a une sorte de.
Ouais, non, mais attendez, elle ampute des majorettes, elle ampute pas que des hommes.
Tant mieux, alors.
Allons-y,
attardons-nous sur les exactions de majorettes.
Non, mais c'est vrai que ces carnets de route, c'est un moment où elle. De repos, voilà. De repos à travers les mots. C'est vrai que les mots, sans doute, la rassurent. Si elle ressent un sentiment de culpabilité, grâce aux mots, elle arrive à s'en éloigner un peu.
Mais on voit bien que c'est un roman, parce que je vous regarde, et il est évident que vous n'avez aucun rapport avec votre héroïne. Et ça, c'est une œuvre d'imagination.
Pas de rapport direct.
Venez me voir chez moi ce soir, je vous montrerai ce que je sais faire avec Massy. Oui,
bien. Avec ce rire-là, je suis tranquille.
Vanessa Zocchetti, je suis sûr que vous êtes intéressée par le fait que la culture catholique soit relativement réfractaire à nous décrire une femme Casanova. Or, c'est ce que vous avez fait, vous, de votre côté. Et ce que je voudrais vous demander, c'est sans doute, pour essayer, en face de cette difficulté, de trouver un moyen de vous en sortir, que vous l'avez mis dans un groupe, presque dans une secte. Parce que les gens, petit à petit, qu'elle convainc et qu'elle séduit, font partie d'un groupe et d'une secte. Or, Casanova, lui, il est libre, il est seul, il est individuel, il s'en va, il quitte, alors que vous, votre héroïne, elle a besoin de cette aide qu'est le groupe.
Oui, tout à fait. Au début, elle est seule, et son unique objectif, c'est justement de créer un groupe et de se fixer, contrairement à Casanova qui voyage. Même s'il est très heureux de revenir à Venise et de retrouver cette terre. Et donc, elle, son objectif, c'est donc en effet de se retrouver dans un groupe, mais tout simplement parce que elle a envie qu'on lui ressemble. Et donc, ce groupe est un groupe qui lui ressemble sur un terrain bien fermé. Et donc, elle est dans une espèce de prison idéologique.
Philippe Solers.
Non, juste un mot. La culture catholique, et Casanova le démontre, était au contraire extraordinairement favorable au libertinage.
Au libertinage, oui, mais à la femme Casanova, peut-être
mais
pas.
Si, mais
c'est
si.
Ce qu'on vient de vous dire.
Mais non, mais attendez, on a oublié l'un des personnages les plus fabuleux de l'histoire de ma vie. C'est la religieuse qui s'appelle elle-même et qui était bien une séductrice et qui monte toute une histoire, au contraire.
Et que vous citez dans votre livre.
Maintenant, je crois qu'il faut se faire à une idée simple et peut-être dramatique. C'est qu'en effet, Casanova est un homme.
Bon, c'est donc ce qu'on reverra tout à l'heure avec vous, Philippe Solers. Je rappelle que le livre de Vanessa Zocchetti est un très bon roman, très alerte, très enjoué, très agréable à lire. Il s'appelle Croque en jambes et qu'il est publié chez Julliard.